chanter pour le Seigneur. En lien avec la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Cahors.
Bonjour chers amis auditeurs et bonjour Martine.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous nos auditeurs également.
Alors nous nous retrouvons bien sûr pour une nouvelle émission de Chanter pour le Seigneur. Martine, quel thème et quel chant avez-vous choisi pour cette semaine?
La messe, Emmanuel, une longue tradition. Et pour illustrer cette émission d'aujourd'hui, j'ai choisi un très beau chant ou processionnal de communion, Goûtez et voyez, dont l'auteur est Raoul Mutin. La composition est faite par Joe Akepsimas. Ce chant est coté D57-71 au Sécli et l'éditeur est ADF Musique.
Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à vos lèvres.
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie.
Tressaillez, le Seigneur vous attend, il entend ses enfants qui l'appellent. Suppliez le Seigneur en tout temps, rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. Au désert, il vous ouvre un torrent, il envoie sa parole sur terre. Écoutez le Seigneur en tout temps, la fraîcheur de son puits désaltère. Exaltez tous ensemble son nom, tous ensemble chantons ses merveilles. Proclamez le Seigneur en tout temps, sa parole au matin vous réveille. Il vous donne la fleur du froment, il vous offre le pain. Recevez le Seigneur en tout temps, et la paix gagnera les frontières.
Alors Martine, ma première question, qu'est-ce que la messe?
Eh bien Emmanuel, la messe est une réunion des chrétiens au cours de laquelle on partage la parole de Dieu et on célèbre l'Eucharistie. Et pour un chrétien, c'est un temps très important. Le Concile Vatican II dit ceci, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. La messe, Emmanuel, vous pouvez me dire, porte un drôle de nom. Eh bien, il est dérivé d'un des mots de la dernière phrase de sa liturgie latine, Ite missa est. Sous ce nom, on regroupe une suite de rites, de paroles et d'actions qui sont vécues en communauté, grande ou petite.
Mais alors Martine, d'où vient la messe ?
Eh bien, c'est Jésus lui-même qui nous a dit de communier à son corps et à son sang par l'ordre suivant. Faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, mémoire ayant ici le sens spécial d'action qui recommence ce qui a eu lieu la première fois. Nous faisons mémoire de ce qui s'est passé dans l'aujourd'hui pour demain. Jésus institue la messe le jeudi saint à Jérusalem, alors qu'il est à table avec les apôtres, dans le cadre de la liturgie pascale juive. C'est la scène où le Christ annonce sa mort et sa résurrection pour la rémission des péchés. Les apôtres vont répéter ensuite ce mémorial en y ajoutant des prières liturgiques propres à leur communauté. Communauté au pluriel. Il était donc à table avec ses apôtres. Vers la fin du repas, autrement dit de la scène, il prit du pain, le bénit, le rompit en morceaux et le distribua à tous en disant ces phrases qui sont dites systématiquement par le prêtre lors de la prière eucharistique « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite le calice du vin, le bénit de même, et le leur donna en disant également « Buvez-en tous, c'est mon sang qui sera répandu pour la rémission des péchés. Faites cela en souvenir de moi. » Les apôtres y communièrent pour la première fois. Donc, la messe est d'origine divine, Manol. Quel respect nous devons avoir pour la Sainte Messe. Les disciples venant du monde juif ont intégré l'Eucharistie dans le rite du partage de la parole qu'ils avaient vécu dans les synagogues. C'est pourquoi, dans les Actes des apôtres, justement après la résurrection et la Pentecôte, on voit les disciples, en particulier saint Paul, célébrer la même messe exactement que nous célébrons aujourd'hui. Avec la communauté, ils partagent la parole, puis célèbrent l'Eucharistie et les croyants communient. La messe est avec le baptême la toute première base historique de l'Église. Ce rituel continue ensuite d'être célébré au temps des persécutions, par les évêques et les prêtres, souvent contraints de se réfugier dans les catacombes où ils enterrent ainsi leurs martyrs. L'habitude est prise de lire un passage d'une lettre écrite par un apôtre appelé Épître, ainsi qu'un passage de la vie et de l'enseignement du Christ, consigné par écrit dès la fin du 1er siècle. Alors, les apôtres, ce qu'ils avaient vu faire par Jésus, sans rien changer, en ajoutent seulement des prières. À la fin d'un repas fraternel, appelé agapé, auquel prenaient part les premiers chrétiens, l'apôtre faisait une prière de remerciement ou prière eucharistique. Racontez donc la scène avec les mêmes paroles. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Le miracle du changement se produisait comme si Jésus avait lui-même parlé et que tout le monde communuait. Toutes les lectures et prières furent peu à peu réglées d'avance et fixées. À certains jours, on choisissait des lectures et des prières rappelant un événement de la vie de Jésus, sa naissance, sa résurrection, sa transfiguration, ou bien un événement de la vie de la Sainte Vierge. Annonciation, purification, visitation, assomption. D'autres fois, c'était aussi en l'honneur des apôtres. Les saints, devenus nombreux, furent aussi honorés chaque jour à la messe. C'était tantôt un martyr, tantôt un évêque, confesseur pontife, un religieux, un simple fidèle, confesseur dit non pontife, une vierge, une sainte femme. Ainsi se sont constituées les prières de la messe, toutes les lectures et les prières de la messe ont été recueillies dans un livre appelé le Missel.
Vous êtes toujours sur l'émission Chanter pour le Seigneur, présentée bien sûr par Martine Dufour, et nous venons d'écouter Ta parole Seigneur et lumière, gloire et louange à toi, magnifique chant par ailleurs.
Tout à fait.
Alors, la messe est donc une longue tradition, n'est-ce pas Martine ?
Tout à fait. La messe à laquelle nous participons est le fruit d'une longue tradition qui a évolué au cours des siècles. Alors, Jésus a vécu la scène avec ses apôtres la veille de sa passion à Jérusalem, mais il n'a pas donné de nom à ce repas spécial mangé avec ses disciples pour la Pâque juive. Mais il a dit seulement un seul ordre, « Vous ferez cela en mémoire de moi ». C'est ce mot qu'il a formulé sans autre indication. Même si les premiers chrétiens ont vécu ensemble ce mémorial dès les premières décennies, après la mort et résurrection de Jésus, et ce n'est qu'au IVe siècle de notre ère que le mot « messe » commence à se rapporter au rite eucharistique. Le mot qui fait son apparition dans le vocabulaire remplace les expressions telles que « le repas du Seigneur » et « la fraction du pain ». Il sera officialisé au VIe siècle, mais la scène Jésus pose les fondements du rite eucharistique, donc la messe. Quelques instants avant la scène, Jésus a procédé au lavement des pieds de ses apôtres. Et on peut se référer à l'évangile selon saint Jean. En fait, par ce geste, Jésus met en lien deux moments importants, le lavement des pieds et la scène, pour inciter ses apôtres et nous aujourd'hui, à nous présenter à l'Eucharistie avec humilité et charité. Les évangélistes Matthieu, Marc, Luc et l'apôtre Paul, qui ne sont ni des reporters ni des journalistes, écrivent sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Grâce à lui, ils ont mis par écrit la tradition orale des premières communautés chrétiennes concernant les paroles fondatrices de la fraction du pain. Précisons que, tout en étant diversifiés, les quatre récits évangéliques de l'événement de la scène sont étroitement liés à la passion du Nazaréen. C'est le mémorial d'un acte d'amour, Imanol. Comme le Christ a choisi ses apôtres, ceux-ci choisiront leurs successeurs pour présider la fraction du pain. Les chrétiens qui célébraient la fraction du pain à leur domicile, changent leurs coutumes et la célèbrent maintenant là où ils se rassemblent. Cependant, certaines coutumes juives persisteront chez eux, comme demander aux femmes de se couvrir la tête et de garder silence dans l'assemblée. Mais tout de même, elles accompagneront les hommes pour la prière et pour la communion. Elles ne seront plus séparées comme à la synagogue. Comme langage liturgique, les chrétiens passeront de l'araméen au grec. Le pain ordinaire ou azim sera utilisé indistinctement, tout comme le vin rouge ou le jus de raisin. Alors, la messe a beaucoup évolué lors de ses premiers siècles. Et à cette époque, la vie de l'Église est d'abord clandestine. Malgré plusieurs différences, l'Église d'Orient et celle d'Occident gardent vraiment des liens étroits avec l'Église de Rome. C'est une période importante car le Concile Vatican II s'en inspirera pour sa réforme liturgique.
Alors s'il vous plaît Martine, rappelez-nous les dates importantes de l'histoire de la messe.
Alors, je vais vous donner quatre dates ou années importantes ou siècles importants. Le 4e siècle, avec Constantin, les chrétiens ont licence de construire des églises pour pouvoir y prier et y célébrer la messe, dont le cœur reste néanmoins la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ, selon sa recommandation. En 590, Grégoire le Grand devient le dernier pape de l'Antiquité ou le premier pape du Moyen-Âge. En fait, le 73e successeur de Pierre conduit pendant près de 14 ans l'Église d'une main de fer. Il réorganise l'Église romaine, fixe définitivement les textes de la messe et de la liturgie, notamment par le chant, d'où Imanol, le chant grégorien. Il réforme aussi la discipline ecclésiastique. Ensuite, 1545-1563, le Concile de Trente, qui confie au pape Pie IV la révision de la célébration de la messe, missel romain, et des autres sacrements, rituels romains, la liturgie des heures ou l'office divin, bréviaire romain, et les autres cérémonies liturgiques, rituels romains ou cérémoniales episcoporum. Pie V promulgue les éditions révisées du bréviaire en 1568 et du missel en 1570. Il rendra alors obligatoire leur utilisation dans toute l'Église latine. Pie V va introduire également dans la messe les prières au bas de l'autel obligatoires ou uniformes et les incorpore à la messe, dont la nature sacrificielle est solennellement affirmée. Alors, ces réformes constituent dès lors le rite tridentin qui reste pratiquement inchangé jusqu'au Concile Vatican II. Alors, Imanol, 11 octobre 1962. Lors du Concile œcuménique, susdit, Jean XXIII, alors pape, lance une réforme en profondeur de la liturgie. Et à partir du 7 mars 1965, l'Église catholique mettra en œuvre sa réforme liturgique élaborée lors de ce concile. Au nombre des transformations, la messe, selon le rite de Saint Pie V, est complètement abandonnée. Paul VI, successeur de Jean XXIII, qui lui est décédé en 1963, donc Paul VI publie un nouveau missel en 1969. Et le rôle de l'Assemblée y est clairement souligné. Elle devient participative. Les officiants peuvent célébrer face aux fidèles pour souligner leur communion. Les vêtements sacerdotaux sont simplifiés. L'usage des langues vernaculaires est facilité, même si le latin reste la langue liturgique officielle. Le cycle liturgique permet une lecture plus étendue de l'Ancien et du Nouveau Testament. La pompe romaine, entre guillemets, veut céder la place au sens du mystère célébré. Le sacrifice de louange des fidèles veut alors être uni plus intimement au sacrifice salvifique du Christ, dans la totalité de son mystère pascal, c'est-à-dire non plus seulement sa mort, mais aussi sa résurrection. Alors, cette réforme liturgique interdit la célébration de la messe selon le rite tridentin, sans autorisation explicite, l'unicité du rite soulignant l'unité des fidèles. Le prêtre descend de la chaire et se rapproche de l'assemblée. Les officiants cessent de tourner le dos aux fidèles. Les vêtements sacerdotaux sont simplifiés, comme je disais, les statues, ornements et guirlandes enlevés des églises. La messe devient donc une célébration de l'Eucharistie.
Merci beaucoup Martine de cet éclairage et on se dit bien sûr à la semaine prochaine pour l'émission Chanter pour le Seigneur. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés et je vous dis à la semaine prochaine.
Au revoir Emmanuel, au revoir à tous nos auditeurs et à la semaine prochaine.
C'était Chanter pour le Seigneur. En lien avec la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Cahors.